Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Endurance 30. Aujourd'hui, je reçois Fabien Gautron. Fabien est kiné et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de chaussures aujourd'hui, de blessures, etc. Mais avant toute chose, je vais laisser Fabien se présenter.
Eh ben, bonjour à tous. Moi, je suis kinésithérapeute depuis 2004. Mon parcours est assez particulier. J'ai travaillé dans le milieu du football professionnel directement à Dijon, puisque je suis originaire de Dijon et je travaille à Dijon. J'ai travaillé avec un certain Rudy Garcia jusqu'à temps qu'il soit sous d'autres cieux. Et puis, le milieu du football ne m'a pas forcément donné envie de continuer. Donc, je suis parti dans un milieu libéral. Et puis, j'ai découvert plein d'autres sports et je suis revenu à mes premiers amours, la course à pied, le cross. Et puis, bah, moi, pour personnellement, c'est plutôt l'endurance et même l'ultra-endurance en tant que pratiquant à mes heures perdues. Voilà. Okay.
Ouais, c'est bref comme présentation, mais je crois que tu n'es quand même pas un lapin de garenne dans le domaine de la course à pied et du trail. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça?
Ouais. Alors après, le milieu de la course à pied et du trail, je suis un peu dedans depuis un bon bout de temps. J'aime bien me dire que je ne suis pas vraiment dedans et que je suis en vraiment temps dedans. C'est-à-dire que j'aime bien être satellite du milieu parce que c'est de là qu'on voit le mieux le milieu et l'évolution du milieu. J'ai collaboré avec quelques coureurs de manière un peu off et du coup c'est pour ça que ça apparaît pas et que j'aime dire que en fait ça doit pas apparaître. Ça fait bien 15 ans que je vis dans ce milieu-là et que je le vois évoluer. Après un peu aussi comme le milieu outdoor en général en fait il suit une évolution que je dirais traditionnelle à travers ce que j'avais déjà connu aussi dans le milieu du football, quoi, où quand l'argent arrive, en fait, le monde du trail, de la course à pied, il commence à évoluer aussi, hein, c'est normal. Chacun essaye de prendre sa part du gâteau et souvent on entend les puristes en fait râler et puis après, il ne faut jamais oublier que, comme toute autre chose, ça restera un commerce, hein, malheureusement.
Non, mais je dis souvent que tout le monde a quelque chose à vendre, y compris moi d'ailleurs, des coachings, un livre, des formations, il faut l'accepter. Et souvent, ça introduira peut-être pour la suite, les gens qui vont à contre-courant en disant on vous escroque, n'oubliez pas qu'ils ont quelque chose à vendre aussi.
Exactement. Tu vas chez le dentiste, il va t'enlever les dents, et chez le podologue, il te mettra des semelles. Si tu viens chez moi, je te vendrai de la rééducation, c'est forcément ce que je connais le mieux et c'est mon prisme de lecture. Après, le multidisciplinaire, il est intéressant et c'est en ça aussi où la critique on va parler des chaussures, sur le monde de la chaussure, je crois qu'il faut échanger avec les gens du monde de la chaussure pour comprendre aussi à quel point eux aussi, ils ont à y gagner à ce que en fait, la chaussure soit de qualité, performante et ils n'ont pas intérêt à ce que le coureur soit blessé, sinon ils ne vendraient plus leurs chaussures.
Ouais. Bon, tu diras pas les noms, mais quand on te suit un peu sur les réseaux, je les mettrai. Il y a 2-3 petites stories qui ressortent de temps en temps avec certaines personnes. C'est facile à deviner que tu as bossé avec des trailers qui courent très vite, je sais pas, parce qu'un trailer court pas très vite, mais vite très longtemps. On va dire ça comme ça.
Et, Après, faut jamais oublier que, Si tes copains sont connus, c'est pas ta faute. Et du coup, c'est pas ce qui fait la valeur d'un kinésithérapeute. Je suis beaucoup plus fier de ce que je fais aujourd'hui dans mon cabinet et à l'hôpital psychiatrique, parce que je travaille aussi en hôpital psychiatrique, que en fait, à travers les performances de certains amis qui n'auraient pas besoin de moi de toute façon pour être brillant, quoi. Donc, faut jamais négliger ce paramètre-là. C'est que c'est pas nous qui courons et que des collaborations, si elles sont officielles, elles peuvent être traduites, mais moi, elles sont jamais officielles. Je m'occupe de tous mes potes de la même manière, donc qu'ils soient connus ou pas.
À qui le dis-tu? Et Bruno Hubig, que j'ai reçu, disait que, et moi pour avoir fait les deux, c'est facile d'entraîner un sportif de haut niveau, entre guillemets. De toute façon, il s'entraîne tous les jours, il se repose tous les jours. Tu peux tester, si tu fais des erreurs, finalement, elles se voient moins d'ailleurs. C'est un gros labo. Et bon, après, c'est aussi le jeu des réseaux, de dire j'ai bossé avec lui, j'ai bossé avec l'équipe de France, etc. Et ça a une valeur, hein, parce que tu apprends des choses. Mais ça a aussi une valeur contextuelle d'être au bon moment, au bon endroit au bon moment, par exemple. Après, si tu n'es pas
Exactement.
compétent, tu te fais comme gicler, hein. Faut pas se mentir. Mais il y a des kinés qui bossent avec aucun sportif de haut niveau, qui sont sûrement très très compétents, des coachs aussi. C'est bien de le rappeler.
Ouais, moi j'ai un tissu disciplinaire autour de moi avec des coachs autour de Dijon qui sont mais extra forts. Et en fait, moi, je les ai découverts au fur et à mesure. Et je crois qu'en plus, quand tu travailles avec pas grand-chose, ça t'oblige à te creuser la tête. Et des fois, c'est peut-être aussi un peu le problème de travailler dans le haut niveau, c'est qu'on te facilite un peu trop la tâche. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le sport de haut niveau. À Dijon, j'avais rien du tout. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai dû me creuser la tête, quoi. Et je crois travaille avec ça, tu viens dans mon cabinet, il n'y a rien d'autre que mes mains et moi et du petit matériel, il n'y a pas de gros matériel parce que je pense pas avoir besoin de ça, quoi.
Ouais. Bah, en plus, quand t'es dans le haut niveau, t'as du temps à tuer. Et du coup, t'essayes des trucs vraiment farfelus. T'as l'impression, t'es convaincu, mais en fait, avec le recul, tu te dis, mais en fait, ça change rien. Bref, c'est la parenthèse. Ouais. Et on voulait utiliser. Enfin, je vais commencer avec la première question, quand même, qui est le fil rouge. Ta définition, pardon, de l'endurance à toi, en quelques mots, ça serait quoi?
Alors, on a beau savoir que tu vas nous la poser, on se dit qu'il faudrait que j'y réfléchisse, et on n'y réfléchit pas tant que ça en fait.
Ah oui.
Moi, je pense que l'endurance, en fait, pour moi, c'est une compétence que tu vas devoir acquérir autant sur le niveau physique que mental, qui est une compétence à durer à une intensité d'effort donnée, quoi. Et la notion en fait d'intensité et d'endurance va être forcément, enfin, de durée et d'intensité va être corrélée. Parce que si ton intensité est très élevée, bah en fait, tu vas pas durer beaucoup. Et si ton intensité est plus basse, bah tu vas pouvoir durer un peu plus longtemps. Et c'est peut-être là où, en fait, cette espèce de continuum, il faut aller chercher. Par contre, moi, j'attache énormément d'importance à la notion que l'endurance est liée autant physique que mentale. Et quand je dis mental, c'est tout ce qui touche en fait à notre, bon, on va dire, psyché, mais en tout cas, c'est notre comportement, notre morale et plein d'autres paramètres, nos sentiments, nos émotions et tout ça.
C'est quelque chose de global.
Ouais.
Ok. Et ben là, on va passer dans le vif du sujet sur la chaussure. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler parce que, pour être très honnête, d'habitude c'est un échange parce que j'ai des pratiquants et des coachs. La chaussure, j'y connais pas grand-chose. Quand les gens me demandent conseil, je leur dis prenez des chaussures, vous êtes bien dedans. Ça se résume à peu près à ça. Et le rapport que j'ai au matos, pour introduire aussi, moi pendant quasiment 10 ans, ça a été une partie de mon job sur les skis, le fart, le choix des skis et tout. Et j'ai bien vu que, et ça rejoint ce que tu dis, les marques, ils ont des choses à vendre, ils ont intérêt à ce que ça soit performant. Il y a un côté marketing, tu le sais. Et moi, j'ai pris toujours beaucoup de recul par rapport à ça, notamment sur les farts. Nous, on en testait tout le temps, il y avait des nouveautés tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était notre job, hein, on était obligés, on en avait 200 farts qui sortaient dans une saison. Et un truc important à dire, c'est qu'il y a certaines méthodes de fabricants, ils ne voulaient pas t'escroquer, hein, mais peut-être qu'une autre nation, on sait qu'ils les utilisaient, nous, on les a essayés, ça ne marchait pas dans notre système. Ça veut dire qu'il faut être assez humble pour se dire, d'autres les utilisent, donc c'est que ça peut fonctionner. Moi, je ne sais pas m'en servir, mais je peux faire sans. Et c'est vraiment mon approche générale sur le matos en disant c'est pas parce que X utilise que ça va forcément fonctionner ou la marque n'est pas forcément en train d'essayer de t'enfiler parce que de toute façon, si son produit marche pas, ça va pas durer longtemps. Et je donne l'exemple sur le carbone, c'est venu dans le ski il y a très longtemps, sur les skis, sur les chaussures, sur les bâtons. Bien sûr, ça fait une différence, notamment sur les bâtons, sur la rigidité, hein, c'est pas tant de poids qui est fondamental. Et C'est pour ça que j'ai ce rapport-là avec le matos qui est assez neutre. Pour avoir baigné dedans très longtemps, je m'en suis détaché en disant, de toute façon, si tu t'entraînes pas, ça changera pas grand-chose.
Exactement.
Exactement, ouais. Même si en
Ouais.
ski, je pense que le matos a plus de prévalence qu'en course à pied. Mais on va faire un petit point sur les chaussures en introduction, justement. J'aimerais bien que tu fasses un petit état des lieux sur le minimalisme, le maximalisme. Qu'est-ce que c'est qu'un drop, toutes ces choses-là. Juste un état des lieux pour commencer. Je te vois qui
Ouais.
sourit.
Alors, ben déjà, en fait, l'état des lieux, il est intéressant. Si tu regardes le marché actuel, le minimaliste a beaucoup disparu. Ça reste assez en fait anecdotique, comme c'était un peu prévisible. Hein, il y a eu le gros boom de Born to Run et puis cette grande affection que les gens ils ont eu pour le retour au naturel et ainsi de suite. Et je cours pieds nus et je cours en minimaliste. Et puis après, il y a eu le gros problème avec Vibram Fivefinger qui a pris un procès parce que malheureusement, en fait, ils ont été un petit peu trop loin dans leur procédé marketing, comme quoi ils éviteraient toutes les blessures. L'état actuel des connaissances montre qu'en fait, que tu sois maximaliste ou minimaliste, en fait, il n'y a pas de chance que tu te blesses moins. Hein. Ça dépend surtout de ton niveau de base. Donc, du coup, la chaussure en elle-même, en fait, c'est un outil. Et j'aime à dire que, en fait, c'est un outil pour moi, de rééducation et pour les gens aussi, peut-être de camoufler comment dire, les problématiques qu'ils ont, quoi. Donc, maximaliste aujourd'hui, c'est vachement mis en avant. Faut être clair et net. Oka a vraiment fait un game changer en arrivant dans le marché avec leur maximaliste. Ils ont même lancé des maximalistes minimalistes parce qu'ils avaient des drops bas avec des épaisseurs élevées. Donc, ça a quand même bouleversé le marché du running. Et quand tu regardes aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'épaisseur, donc ce qu'on appelle le stack,
Ouais.
l'épaisseur vers la taille au talon. Ensuite, pour le drop, en fait, aujourd'hui, on n'est plus aussi fixé sur le drop, ça a perdu de sa verve en termes de communication. Donc, le drop, c'est la différence entre la hauteur au talon et la hauteur à l'avant-pied. Et donc, le drop, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours parlé de cette problématique de drop. En gros, le drop, ça avait été créé pour venir soulager le tendon d'Achille. En mettant des drops plus élevés, tu raccourcissais la position du tendon d'Achille et tu mettais moins de tension sur le tendon d'Achille, avec plus comment dire, de matière sous le talon. Donc il y avait et l'aspect amortissant et l'aspect de la course musculaire du soléaire et du triceps qui était soi-disant amélioré. Le drop a perdu sa verve et en plus on s'est planté avec le drop, c'est que les gens ramènent pas le drop à la pointure. Et si tu fais du 46 avec un drop de 6 et si tu fais du 36 avec un drop de 6, tu vois bien que ça n'a pas le même impact sur ton bonhomme ou ta bonne femme au-dessus, quoi. Donc il y a un angle en fait qui est plus intéressant, ce qu'on appelle le footbed angle, et qui est celui-là beaucoup plus intéressant, mais qui est sous-étudié. Il y a très peu de gens qui parlent de cet angle-là. Et pour moi, c'est plus celui-là qui a un impact. Et donc je fais beaucoup plus attention des fois, enfin au drop, quand il s'agit de comment dire, de petites pointures, que quand c'est des grandes pointures, par exemple, parce que pour moi, les grandes pointures, ça change pas fondamentalement grand-chose. Et puis le drop, ça a été, comme je te disais, commercialisé aussi sous l'aspect de gérer les forces d'impact au sol. Et puis du coup, dans le domaine de la rééducation, bah, c'était du pain béni pour dire que ça allait améliorer les blessures, puisque c'est la force d'impact au sol qui soi-disant blesse les coureurs. Je dis soi-disant parce que je ne pense pas que la force d'impact blesse les coureurs. Au contraire, c'est ce qu'on doit aller chercher à maîtriser, la force d'impact, pour pouvoir avoir de l'énergie élastique. Et qu'aujourd'hui, on fait plus confiance à la matière dans la semelle de la chaussure que nos matières à nous, nos fascias et la manière dont on peut gérer nos fascias. C'est assez bluffant d'imaginer qu'en fait les fabricants de chaussures, ils regardent comment fonctionne le pied. Une fois qu'ils ont compris plus ou moins comment fonctionnait le pied, eh ben, ils recréent de manière artificielle le pied à travers ben, maintenant une zone rigide que nous, on s'est créée avec notre musculature. Eux, ils appellent ça une plaque carbone. Nous, on appelle ça des musculatures intrinsèques du pied. Et puis après, ils ont un côté amortissant avec des mousses qui évoluent au fur et à mesure. Donc l'épaisseur de la chaussure va varier, le drop va varier en fonction des mousses qu'on va utiliser. Et en ce moment, on est très oversize. Et puis, bah, ça, en fait, on l'a aussi dans notre pied, quoi. Donc effectivement, on devrait pouvoir, entre guillemets, courir sans chaussures. Mais aujourd'hui, on ne ferait plus les mêmes performances, quoi. C'est là où il faut pas se tromper. On a besoin du matériel pour faire évoluer les performances. Et par contre, aujourd'hui, clairement, en fait, le matériel n'a pas montré d'effet négatif sur le coureur à pied, quoi. Par contre, l'inadaptation de l'utilisation, bah, ça oui, quoi. Et je crois que je discutais avec un manager connu il n'y a pas longtemps. En fait, on parlait de la couverture de survie. Pour moi, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont une couverture de survie et ils ne savent pas comment l'utiliser. Et bah, je crois qu'aujourd'hui, une chaussure, c'est un outil technologique. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toutes les technologies qui sont dedans parce que tout simplement, on ne sait pas les utiliser. Mais par contre, on peut se servir de certaines modalités de certaines chaussures pour pouvoir compenser des déficits qu'on va faire progresser en parallèle, que ce soit par toi, la préparation physique, ou par la rééducation si en fait il y a eu blessure, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est un outil. Sur Instagram, on a une page qui s'appelle For Foot Shoes, où en fait on dissèque toutes les chaussures pour pouvoir donner des conseils et de vulgarisation autour de l'utilisation des bonnes chaussures pour les bons problèmes, quoi.
Je vais voir de temps en temps, et quand vous dites que vous décortiquez les chaussures, vous les ouvrez en deux, c'est
Ouais.
vraiment.
Ouais, non, c'est un vrai kiff. En fait, ça a permis, moi personnellement, ça m'a permis de m'entretenir avec des marques. Bon, il y en a aussi qui m'ont menacé. J'ai trouvé ça surprenant, mais ça m'a permis de comprendre aussi le point de vue de la marque. Et c'est vrai que quand tu découpes une chaussure, des fois tu découvres des choses qui sont assez surprenantes et qui correspondent aussi à des paramètres que, en fait, ressenti, tu peux pas exprimer, quoi. Il y a notamment la notion de respirabilité d'une chaussure qu'en fait qui est beaucoup beaucoup exprimée. Votre chaussure, elle est Gore-Tex, elle est respirable et ainsi de suite. Mais j'ai testé notamment une chaussure, je vais pas donner la marque, mais quand en fait tu la mets dans l'eau, elle ressort avec 100 grammes de plus. Ben, quand tu vois le coût énergétique de déplacer 100 grammes de plus au niveau de ton pied, eh ben, il faut se dire que peut-être toi tu as l'impression qu'elle respire bien, mais en fait quand elle trimballe 100 grammes d'eau en plus, eh ben, à la fin, une chaussure soi-disant légère et rapide qui prend 100 grammes, ben, ça devient un gros sabot, quoi. Et ça, il faut le savoir aussi. Et peut-être que dans la communication, souvent, en fait, si tu regardes, il n'y a aucun fabricant qui dit ma chaussure, elle est pourrie, prenez-la pas. Ou alors prenez-la, mais soyez très costaud, quoi. Elles sont toutes au top du top et malheureusement, c'est pas vraiment la réalité. Donc, faut faire attention. Mais tout à l'heure, tu parlais d'un des principaux conseils que tu donnes, c'est le confort. Ben oui, en fait, c'est bête à dire, mais la chaussure, le premier atout qu'elle doit avoir, c'est confortable. Si vous n'êtes pas confort dedans et si la pointure n'est pas bonne, et bah c'est quelque chose qui va pas être un point positif pour la suite. Et encore plus quand on fait de l'ultra-endurance, les pieds, c'est fondamental. Ils doivent être vraiment, vraiment nickel du début à la fin, quoi.
Bah, tu sais, moi j'ai une approche très minimaliste de la chaussure, mais pas dans ce sens-là justement. Dans le sens où, pour moi, une chaussure c'est un outil, tu dois être bien dedans. Si tu te fais plaisir avec une chaussure minimaliste, vas-y. Si tu te fais plaisir avec une chaussure maximaliste, vas-y. Mais dans tous les cas, je pense que si tu prends une des deux extrêmes, c'est un point de vue, hein, ou minimaliste ou le carbone par exemple, bah, c'est comme l'entraînement, il faut t'habituer à courir avec. Et il y a quelque chose qui me dérange dans un message qui passe, c'est que le pro minimaliste est le corps s'adapte à tout, donc il va s'adapter au minimalisme. Par contre, pourquoi il n'est pas capable de s'adapter au maximaliste? Il y a un truc qui me dépasse là-dedans.
Ben, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vends à côté? Le message, il est hyper intéressant. En fait, aujourd'hui, on sait que le corps s'adapte jusqu'à une certaine limite
Oui.
à toute stimulation que tu vas lui proposer. Donc, il faut absolument que, en fait, la chaussure soit une stimulation. Alors, c'est sûr que si tu passes du maximaliste au minimaliste, tu vois bien la stimulation, hein, parce que dès que tu les mets une demi-heure, T'as vite compris qu'il y avait une stimulation. De l'autre côté, tu le sentiras moins. Et pourtant, les études montrent que en fait, le coût énergétique va être plus important parce qu'il y a une notion d'adaptabilité, que ça soit nerveuse ou métabolique, hein, quoi qu'il en soit. Mais en fait, tu as raison. Le vrai truc, c'est que c'est plus facile de ressentir le passage du maximaliste au minimaliste et dire, voyez, votre corps s'adapte et en fait, vous allez retrouver une foulée naturelle. Alors ça, j'en peux plus de cette foulée naturelle parce que c'est comme le concept de l'homme est fait pour courir. Oui, l'homme, il peut courir, mais il court derrière le bus 100 mètres, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'homme qui fait un marathon, il a besoin d'apprendre à courir. L'homme qui sprint à 9,80, il a besoin d'apprendre à courir. Il y a des techniques, en fait, c'est courir comme ça autour d'une piste et tout. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui est fait normalement. C'est quelque chose qu'on va appréhender. C'est pour ça qu'on appelle ça gérer l'effort. Et on apprend à gérer son effort, gérer ses allures. Et du coup, on va créer une structure. Et cette structure, elle est négligée. Pour moi, hein, c'est ce qu'on appelle le système myofascial et surtout facial. Et donc du coup, quand tu travailles sur du minimaliste, eh ben, tes fascias, en fait, ton fascia plantaire, ton tendon d'Achille, ton tendon rotulien, tous ces éléments, la bandelette iliotibiale, si tant est qu'elle existe, tout ça, c'est des éléments fasciaux. Et c'est bizarrement, c'est toutes les zones de blessure du coureur. Donc en fait, il faut qu'on comprenne un petit peu différemment la manière de déambuler. Et il y a courir avec l'aspect musculaire. Et en fait, ça, tout le monde peut le faire. Et ça s'appelle une foulée rasante. C'est de la marche-course. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Et puis, il y a s'adapter à la course. Et là, s'adapter à la course, c'est mettre en tension ses élastiques. C'est de la chaîne myofasciale. Et ça s'apprend. Et ça s'appelle des techniques d'athlétisme, par exemple. Ça s'appelle des gammes athlétiques et des choses comme ça. Et ça s'appelle avoir du rebond. Et donc, bah, ta chaussure, en fait, si elle est maximaliste, et bah, tu vas appréhender le rebond d'une manière, c'est-à-dire entre toi, la chaussure et le sol. Donc, il y a deux interfaces à gérer. Et puis, autrement, dans du minimalisme, en fait, avec l'interface de la chaussure qui est beaucoup plus fine et qui est avec plus de contact avec le sol. Mais en soi, franchement, enfin, s'adapter à du maximaliste et s'adapter à du minimaliste, c'est le même combat. Sauf que c'est vrai, plus souvent dans du maximaliste au quotidien, quoi. Sauf si tu
Ouais.
trimbales pieds nus tout le temps, quoi.
On va, avant de passer aux blessures, je vais faire un petit retour d'expérience. J'ai dit que je parlais pas beaucoup, donc je vais pas faire très long. Il y a deux, trois points. Moi, l'année dernière, j'ai accompagné un peu plus de 70 personnes, beaucoup en course à pied. Je sais pas avec quoi ils courent. En fait, je m'en fous parce que c'est leur problème à eux, justement, là-dedans. Et j'ai eu trois blessures. J'ai eu un syndrome d'essuie-glace. Le syndrome de Hoffa que j'ai découvert, une entorse de la cheville, ça fait une quatrième blessure, et un autre truc. Bon, j'ai eu quatre blessures à chaque fois, et à chaque fois, les blessures sont survenues. Ça n'avait aucun rapport avec la chaussure, ça est survenu qu'il y a eu un gros changement perso ou pro, et qu'on l'a mal appréhendé à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, la
Ah oui,
chaussure, là,
bah.
neutre. Et c'est une erreur et de la personne et de moi, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est une erreur commune. Et pour moi, le truc que j'ai, c'est que j'ai pas l'impression que les chaussures aient changé grand-chose. Ça, c'est le premier point. Et justement, on y viendra, mais comme ça, je termine sur les éléments. Le deuxième point, c'est que moi, les carbones, pour faire mon marathon, j'ai pris des carbones. J'en ai à peu près rien à faire que ça me fasse, que les études disent que je vais augmenter ou pas mes performances. Je ne sais pas, c'est ma déformation du ski, mais quand j'ai mis les carbones, moi, j'ai l'habitude de bosser avec le pied, je m'éclate. Franchement, je ne cherche pas plus loin. Puis pour m'éclater, bah, j'ai commencé à faire un petit footing par semaine avec. Après, j'ai fait le footing un peu plus long dans la semaine et ainsi de suite pour qu'après ça passe. C'est le principe de progressivité. C'est comme dans l'entraînement. Je l'ai abordé comme ça. Et le troisième point, j'ai regardé hier justement un reportage sur Netflix sur la Mexicaine Lorena. J'ai pas son nom, qui court en méduse.
Ah oui,
En juste
ok,
méduse.
ouais.
Alors, moi, je me suis dit plusieurs trucs et je ne suis pas partisan sur le matériel, vraiment pas. Le premier truc, je me suis dit, oui, c'est possible de courir en méduse. Ça, c'est vrai. Deuxième truc, Kipchoge, il courait le marathon en méduse, il éclaterait quasiment tout le monde, mais il irait moins vite. N'empêche que il faut être pragmatique hein, avec ça, à mon avis. Et le troisième point, peut-être que si Lorena courait avec des chaussures, elle irait encore plus vite, mais elle n'a pas envie de le faire. Ça lui va très bien comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas être partisan en disant. Tu sais, tu peux avoir une analyse en disant, bah, regarde, elle gagne, elle court en méduse, c'est du minimalisme, il faut que tout le monde fasse comme ça. Le débat, pour moi, il n'est pas là. Et surtout, elle fait un truc, elle s'entraîne, elle court tout le temps. C'est ça qui l'a fait courir vite, hein. C'est pas ses méduses.
Ben ouais, en fait, c'est là où on reprend en fait ce qu'on reproche à la marque. C'est-à-dire quand la marque elle dit en fait vous aurez pas de blessure, vous serez ultra performant, tout le monde gueule en disant c'est pas vrai. Et puis après, quand il y en a un qui réussit avec des Vaporfly à battre le record du monde, après tout le monde veut courir en Vaporfly parce que en fait c'est ça qui a fait la diff. On a oublié Kipchoge, que le jour où il bat le record du monde et qu'il explose le chrono, en fait ça fait des années qu'il s'entraîne avec des chaussures comme ça et que du coup il a je dirais que en fait il y a une espèce d'alliage, c'est-à-dire que c'est le prolongement de lui-même cette chaussure. Donc après, quand derrière on fait des études et on dit oui, en fait la Vaporfly, attention, elle fait pas 4% de gain et puis chez tout le monde ça fait pas pareil. Mais heureusement, je dirais que heureusement. Et en fait, ça m'a rassuré quand j'ai vu qu'il y avait un écart type dans les évolutions et qu'il y a des gens qui étaient des mauvais répondeurs, comme il y a des gens qui étaient des bons répondeurs. Parce que ça aurait été une exception que cette chaussure, elle soit un bon répondeur pour tout le monde. Après, la réalité de la performance, moi, ça me ramène, tu sais, si tu regardes l'athlé, en fait, à l'époque, on sautait en hauteur avec une perche en bambou et on tombait dans la cendre. Mais quand en fait on arrivait avec des matelas et quand on arrivait avec des perches carbone, est-ce que les mecs sautaient plus fort parce qu'ils étaient mieux entraînés ou parce qu'ils avaient du matériel qui leur permettait de tomber de plus haut et d'aller plus haut? Aujourd'hui, on est en train de vivre ça. Il y a des gens qui l'appréhendent et il y a des gens qui veulent rester en disant c'était mieux avant et en fait on est contre nature et c'est pas bon pour la santé. Et voilà, parce qu'on a des choses à vendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un certain temps pour s'adapter à tout système, c'est de ce que tu as dit tout à l'heure, la progressivité. Et on aura des blessures liées au nouveau matériel, à des allures supérieures, à des volumes supérieurs. Et par contre, on aura aussi des expositions grâce à ça, à des chronos qu'on n'aura jamais vus, quoi. Qui aurait dit qu'on battrait le record du 400 mètres haies, le Norvégien, il avait une chaussure qui était extraordinaire, mais il y avait aussi un tartan qui était extraordinaire. Et ça, en fait, on a ça aussi évolué. La cendrée qui était autour des comment dire, des pistes de 400, en fait, on oubliait que c'était un facteur limitant pour accrocher le sol. Donc, en fait, les mecs propulsaient beaucoup, mais en fait, ils n'arrivaient pas à gripper. Dès qu'on a mis le tartan, ben, on a réussi à gripper et on a fait évoluer les chronos. Et le jour où on évoluera encore sur ça, ben, ces interfaces-là, elles nous aident aussi à faire progresser l'individu. Mais de là à dire qu'en fait, il faut être pieds nus ou être. Enfin, moi, je trouve que l'incohérence, elle est extraordinaire. Bikila, il gagne pieds nus, le marathon. Derrière, on interdit de courir pieds nus parce que ça offrirait un avantage. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. C'est extraordinaire. Le meilleur coup des marques, ça a été ça. Ça a été de venir dire, prenez des chaussures, c'est au moins, c'est réglo, quoi. Ils sont tous moins forts. Et maintenant, tout le monde court avec des chaussures et tout le monde trouve ça normal. Et après, voilà, c'est une évolution. Par contre, c'est mieux, c'est moins bien. Moi, je pense qu'en fait, il faut prendre le temps d'appréhender les choses. Et comme tu as dit, en fait, tu commences avec des petites distances, tu vois comment ça se passe avec toi. Et puis voilà, on se rendait compte au départ du carbone que, bah, soi-disant, il fallait être super rapide pour utiliser le carbone. Et
Pas
puis
vrai,
bah,
je trouve.
maintenant, tout le monde les met. Et en fait, il n'y a pas plus de blessures que ça. Il y a des blessures à des endroits différents. Ça, c'est sûr. Mais bon, ça, comme le minimaliste a amené des blessures à d'autres endroits et le maximaliste à d'autres endroits. Moi, j'aime bien la formule de Franz Bosch, hein. Pour moi, il y a deux types de coureurs, hein. Il y a le coureur blessé et il y a le coureur qui va bientôt se blesser.
Ben oui, et c'est important ce que tu dis, que les études, mais souvent, hein, pas que sur la chaussure surtout, même si je les connais moins que toi. Il s'intéresse à l'économie, aux facteurs de performance, pas forcément à la performance directe d'ailleurs. Et ça, c'est un biais parce que pour moi, ta chaussure, par exemple, c'est un truc bête, hein. Elle va aussi t'aider à te faire progresser, carbone ou pas carbone, hein, tout ce que tu veux. Parce que si tu te fais plus plaisir à l'entraînement, peut-être tu peux courir plus vite. Ton corps, il mémorise le fait d'aller plus vite. Tu peux faire plus de kilomètres dans la semaine. Ça, c'est la progression qui va t'amener peut-être à te blesser quand tu vas arriver à une certaine limite. Ça, c'est autre chose. Mais n'empêche qu'il y a aussi un impact du matériel sur ta capacité à t'entraîner et à faire certaines choses. Et ça, pour moi, c'est pas négligeable du tout et c'est à prendre en compte. Après, derrière, il faut laisser le matériel à sa place, mais il faut pas non plus être, faut pas se concentrer que sur la perf pure. Et l'autre jour, aux 10 km de Nice, là, je regardais, il y a je sais pas combien de coureurs qui sont passés sous les 35 minutes. Si ça, c'est pas un signe que ça aide à courir plus vite, peut-être pas tout le monde, mais sur une tendance, chez des gens qui le supportent, je sais pas ce qu'il faut chercher. Chez les coureurs, 35 minutes, ce n'est pas des génies. Enfin, c'est rapide, hein, mais ce n'est pas
Ah
des
oui.
records du monde.
Mais surtout, si tu prends la densité des 35 minutes il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de monde. Donc en fait, même si on veut chercher la petite bête en disant ça fait pas ci, ça fait pas ça, eh ben, les chronos, ils sont là pour te montrer la réalité. Et c'est là où en fait on ne peut plus négliger que apprivoiser sa chaussure, qu'elle soit carbone ou pas, parce que là on parle carbone, mais ce qui va évoluer, ça va
Les
être encore.
mousses.
Les mousses vont être encore beaucoup plus performantes et à un moment donné, on n'aura même plus de carbone dedans et en fait, les mousses, comment dire, les densités de mousse changeront en fait la capacité que la chaussure elle aura et on aura. Pour moi, le facteur le plus important, ça a été aussi la baisse du poids de la chaussure parce qu'on n'en a pas parlé, mais le poids de la chaussure est fondamental. Et plus une chaussure va évoluer vers un côté plutôt fin, plus on va être encore performant. Le problème, c'est que si tu mets des technologies, bah, ça alourdit la chaussure. D'où le fait que le minimaliste a été aussi mis en avant par le fait que le poids joue beaucoup. Le drop joue une chose, l'épaisseur va jouer autre chose, et puis les technologies une autre chose. Mais la réalité, c'est qu'en fait, si tu peux aider ton pied avec une rigidité et que tu peux avoir le moindre impact sur ton cycle de course par le poids, ben voilà, en fait, c'est hyper important. Mais on aura un problème aussi à un moment donné quand le poids sera trop faible, parce que la perception de la chaussure, ben maintenant, ça va être de plus en plus compliqué, quoi. Si ta chaussure est hyper légère et tu la sens plus au bout du pied, ben c'est aussi déstabilisant.
Mais on va terminer la parenthèse sur la performance avant de revenir aux blessures. Mais même si j'invite toujours les gens à pas copier ce que fait le haut niveau, mais moi ce que je constate, c'est que les coureurs élites ne courent pas en minimaliste et que les skieurs de fond élites n'ont pas des bâtons en bambou et des skis en bois. C'est un point si on parle de perf. Pour moi, il ne faut pas chercher midi à 14h. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir des chaussures carbone, tout le monde doit avoir des skis en carbone. Mais en tout cas, si on parle de perf, à un moment, la réalité, elle est quand même là. Je veux bien qu'on m'apporte comme argument le marketing des marques. Hein. Mais si le gars, il peut courir 2 minutes, s'il met 5 minutes de plus à son marathon, caché ou pas caché, il ne prendra pas les chaussures hein, sur les
C'est
élites.
ça. Mais c'est ça, on l'a vu quand Vaporfly a été au top, tous les mecs ils couraient avec des chaussures masquées et c'était des Vaporfly noirs, si tu te rappelles, à l'époque, et ils parlaient de concurrence déloyale. Alors que si vraiment aujourd'hui, en 10 ans après, on en parle en disant ouais, mais en fait, c'est une histoire de comment dire de cachet, moi je pense qu'aujourd'hui, t'as pas envie d'être sur la même ligne de départ avec des mecs qui sont mieux dotés que toi parce que bah, déjà ils ont apprivoisé leur matériel et qu'en plus leur matériel leur fait du bien à l'entraînement sur la manière de s'entraîner, sur la manière d'être compétitif et comme tu as dit en fait sur le plaisir qu'ils ont à comment dire à jouer à l'entraînement. C'est clair et net quand tu as un nouveau jeu, que ce soit ta montre, que ce soit ton short, que ce soit n'importe quoi, déjà ça te donne envie plus de t'entraîner. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu la différence avec tous les coureurs qui participent au développement du matériel. Eh ben, ça leur donne aussi un boost dans la manière de comment dire de s'entraîner. Et c'est une réalité, quoi. Donc
Ouais, et les. Pardon. Les
après, comment
gens.
tu.
Ouais,
Vas-y,
pardon.
vas-y.
Ouais. Je disais juste, les gens ont tendance à prendre les athlètes et les entraîneurs de haut niveau pour des neuneux, parce que le carbone, effectivement, de fait de s'entraîner plus vite, ça va peut-être aller un peu plus à la rupture et provoquer de nouvelles blessures. Sauf que ce que vont faire les athlètes et les entraîneurs, ils vont dire, attention, le carbone, peut-être, ça fait courir plus vite. Par contre, ça donne ça comme problématique. On va adapter l'entraînement en fait pour limiter la problématique. Ils sont pas neuneux, les
Mais
gens.
oui. Ben en fait, c'est là où tu viens voir aussi un autre problème, c'est l'entraînement, en fait, le vrai entraînement avec un vrai suivi et avec des gens qui sont très attachés à ce qu'ils voient. Quand tu es au bord de la piste et qu'un mec il tourne 10 secondes plus vite que d'habitude avec ses chaussures, et ben en fait, le vrai entraîneur, il ne laisse pas tourner 10 secondes plus vite et il dit, attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il se renseigne et en fait, du coup, il est très très vite au fait des choses. En plus, c'est illusoire de penser qu'en fait enfin il y a des belles études qui ont montré qu'en fait à l'œil nu être capable de voir la consommation de enfin ton économie de course en fait c'est impossible. Donc le meilleur moyen c'est de connaître tes athlètes et justement de connaître les partenariats. J'ai vu un très très bon coureur à l'UTMB, perdre l'UTMB à Saint-Gervais parce que en fait son équipementier lui a donné des chaussures pourries et qui s'est retrouvé à Saint-Gervais avec une pizza sous le pied, quoi. Alors qu'il était probablement plus fort que la majeure partie des mecs qui étaient cette année-là. Sauf que va descendre 1 heure en le col ferré et puis avec une pizza sous le pied, quoi. Ben, c'est impossible. On a eu aussi le cas en 2017 où Kylian avait des problèmes avec ses chaussures, avec ses mèches, parce qu'absolument il voulait courir avec les mèches. Ben voilà, ça s'est pas passé, quoi. Il a eu des douleurs au pied et clairement, en fait, ben, stratégiquement, c'était pas malin, quoi. Parce que si tu veux absolument faire plaisir à ta marque, à un moment ou à un autre, en fait, ça te retombe dessus, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, alors peut-être beaucoup moins maintenant, parce que je pense que les marques, elles ont compris, mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont raté comment dire, des jolis podiums ou des jolies places parce qu'en fait, ils n'avaient pas le bon choix du matériel parce qu'ils se sont imposés, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de communication et si tu as une chaussure qui va bien avec un équipementier qui fait attention à ça, je pense que la performance, elle peut être là, quoi. En tout cas, la blessure ne doit pas être au rendez-vous à cause de ça, quoi.
Et justement, en parlant de blessures, toi qui es là depuis longtemps, c'est ta spécialité. On va faire une petite revue, un petit bond en arrière dans le temps. Est-ce que, même si le carbone, on n'a encore pas de recul, mais en tout cas sur le maximalisme, le minimalisme et les chaussures des années 80 qui avaient moins de technologie, est-ce que il y a plus au prorata de blessures maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou est-ce que les blessures, c'est finalement les mêmes?
Mais en fait, je te dirais que si tu prends la valeur brute, en fait, il y aura plus de blessures. Mais il faut pas oublier que tu as plus de pratiquants.
Au
Donc
prorata,
déjà,
oui, tu
ça,
disais.
ouais. Et c'est là où en fait les études sont souvent en fait un peu biaisées, c'est qu'en fait tu as un biais de sélection dès le départ. L'échantillonnage n'est pas bon et en plus les gens qui viennent à la course à pied dans les années 80, c'était des gens qui étaient éduqués. C'est-à-dire beaucoup de gens qui venaient en fait des milieux athlètes ou du moins qui faisaient du cross-country ou des choses comme ça en fait et qui avaient une vraie éducation de course. Donc des vraies technicités de coureurs. Alors qu'aujourd'hui, Monsieur Tout le Monde, il passe chez Decathlon et il s'achète une paire de chaussures. Ça y est, il est devenu coureur. Hein. En plus, il a du bon matériel déjà maintenant. Donc en fait, voilà. Mais la blessure en elle-même, elle a pas changé. Elle est toujours présente parce que le pourvoyeur de blessures, c'est le trop vite, trop souvent, trop fort et peut-être pas très bien fait. Et donc du coup, aujourd'hui, je pense qu'en fait, la chaussure, qu'elle soit maximaliste, minimaliste, n'a pas apporté d'amélioration au niveau des blessures, parce qu'on est toujours entre guillemets pas raisonnable, tout simplement, et encore plus quoi, maintenant.
Ouais, elle n'a pas apporté d'amélioration, mais elle n'a pas apporté plus de blessures finalement, si je résume.
Non, parce que. Non, 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 parce qu'en fait, comment dire, les marques, elles ont été intelligentes quand elles ont amené des chaussures entre guillemets plus technologiques pour éviter le gros boom des blessures liées à ces chaussures-là. Elles ont mis des prix assez élevés, ce qui fait que c'était pas abordable pour tout le monde. Et puis, elles ont aussi un mode de fonctionnement qui est intéressant, c'est-à-dire que une chaussure que tu vois au pied d'un athlète aujourd'hui en 2024, c'est une chaussure qui a été conçue il y a 3 ans. Donc les protos, ils ont beaucoup beaucoup tourné et il y a beaucoup de marques qui ont des ambassadeurs et qui font tourner sur leurs ambassadeurs en fait les produits, j'allais dire, qui sont à venir et qui permettent d'avoir des retours, ce qui évite de faire des grosses conneries de lancer sur le marché des chaussures. Alors il y a eu des ratés, hein. Je me rappelle, je sais plus comment c'est la marque qui avait lancé des chaussures avec des ressorts et tout. Enfin voilà, il y a des côtés marketing qui sont hyper puissants, mais tu vois, il n'y a pas eu de gros carton en fait qui a amené à remplir les infirmeries parce que cette chaussure était un petit peu mal pensée, quoi. Parce que si elle a été mal pensée, elle a été mise à un prix exorbitant, ou alors elle a été un peu incognito, ce qui fait qu'on n'a pas eu de dégâts monumentaux. Mais je pense que ça fait partie aussi des modes de réflexion des marques. de pas se griller non plus quoi. Après, tu vois, Five Finger c'est mis une épine dans le pied quand ils ont dit qu'en fait, grâce à leurs chaussures, en fait, il y aura plus de problèmes de santé. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus aucune marque qui fait ça. Il y a Nike qui avait essayé avec une de ses chaussures de vanter les mérites qu'elle blessait moins, mais ils l'ont comparé avec une de leurs chaussures. Ils sont pas fait Harakiri en allant jouer sur le comment dire sur d'autres terrains.
C'est pour ça qu'il faut pas être naïf hein, sur les marques. Forcément, il y a une promesse dans n'importe quel produit que tu achètes. Mais moi, ce que je regarde, parce que l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo, du coup, je voulais vérifier ce que proposaient les marques. Je vois peu de marques qui vendent comme promesse de ne pas se blesser. Elles te
Et
vendent,
non.
elles te survendent peut-être la perf, peut-être, hein, ça c'est vrai, mais j'ai vu aucune marque qui promet ça.
Ben c'est comme si je te disais, est-ce que tu connais un entraîneur qui te promet que quand tu seras avec lui, tu ne te blesseras pas? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vœu pieux parce que malheureusement, en fait, on est voué à se blesser simplement parce qu'on essaye de toucher nos limites par des essais-erreurs. Et donc, malheureusement, en fait, suivant les tentatives que tu vas faire, tu vas peut-être toucher d'un petit peu plus près la blessure. On joue sur la corde raide en permanence à partir du moment où on veut faire de la performance. À chaque fois qu'on m'appelle pour venir travailler avec quelqu'un, en fait, je demande toujours si on veut que je fasse de la performance ou si on veut que je fasse de la prévention des blessures. Quand on me demande les deux, je dis c'est pas possible, c'est impossible. Tu peux pas faire de la prévention des blessures. Dans ce cas-là, tu fais une EHPAD. Et si tu fais de la performance, tu acceptes que les mecs soient blessés. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas optimum à chaque fois. Ça veut dire que l'objectif n'est pas le même, quoi.
Quand on court beaucoup, sans parler de performance de haut niveau, moi je le vois bien, je ne perds pas du tout au haut niveau quand je cours, mais tu as quand même toujours mal quelque part. Enfin, pas toujours, mais
C'est ça.
moi j'ai mon tendon d'Achille gauche, je sais, il revient je sais très bien quand est-ce qu'il revient, je le sens venir, je sais à peu près le gérer. Je sais que si je force un peu trop, que je ne m'étire pas et que je ne bois pas assez, même si les étirements sont soumis à débat, mais on ne va pas faire un épisode dessus. Moi, je sais que quand je m'étire, j'ai pas mal au tendon d'Achille. Et quand j'arrête de le faire, j'ai mal. Et tu vois ce que je veux dire? Quand tu pousses, t'essayes, et ben, au bout d'un moment, ton corps, il dit, bah, cette fois, tu as bien poussé, calme-toi un peu. La douleur, en fait, c'est. Enfin, moi, j'ai du mal avec. J'ai pas dit qu'il fallait avoir mal tous les jours, hein, mais j'ai du mal avec le discours, la douleur n'est pas acceptable. Pourquoi elle ne serait pas acceptable? Parce que tu es laissé erreur et tu essayes.
Eh oui. Et si tu n'utilises pas tes capteurs, comment tu vas savoir que tu es dans la surchauffe? La douleur est un capteur comme un autre. Et on est très partisans des capteurs sur nos voitures, on est très peu partisans des capteurs sur notre mode de fonctionnement personnel, quoi. Une chaussure qui serait trop petite, comme on voit souvent, et une chaussure qui ne serait pas confortable avec des volumes élevés, comment c'est possible que même si c'est la meilleure des chaussures, elle fasse du bien? C'est juste pas possible, elle fait du bien que quand on l'enlève. Donc voilà pourquoi l'élément numéro un, ça sera de bien chausser les gens avec une bonne pointure et avec un comment dire un chaussant qui est confortable. Et puis après une chaussure qui va être adaptée au milieu dans lequel on va fonctionner. Parce que l'objectif numéro un, c'est quand même que tu puisses t'entraîner dans les meilleures conditions et que cet entraînement soit stimulant. Il y a une étude qui montre que pour moins se blesser, en fait, il faudrait que tu varies tes chaussures. Mais si tu prends varier les chaussures et que ces chaussures ne te stimulent pas, c'est-à-dire que même si tu varies tes chaussures, la stimulation n'est pas différente. Bah, du coup, en fait, tu n'as pas varié tes chaussures parce que tu n'as pas varié les stimulations. C'est un des éléments les plus importants. C'est varier les chaussures, c'est fait pour décharger certaines zones pour en charger d'autres. Et c'est un moyen de venir t'économiser. Mais c'est un repos relatif.
Ouais, et tu sais, même sur l'entraînement, sur la variation, moi je donne une petite astuce que je fais moi, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais je vais en montagne. Bon, sur la route, je vais toujours avec des chaussures de route quasiment. Par contre, quand je vais en mode trail sur chemin, j'alterne entre des chaussures de trail et des chaussures de route. Je le fais même des fois en carbone. C'est pas pour courir plus vite, c'est juste qu'au niveau proprioceptif et au niveau, surtout dans les descentes, parce qu'une chaussure de trail est plus adaptée à la descente qu'une chaussure de route. Pour moi, on va pas se mentir, il y a des crampons, etc. Bah, ça me permet de faire un peu différemment. Et la rotation, je pense qu'elle sert aussi sans, indirectement à la prévention des blessures, mais à développer d'autres compétences, en fait.
Ah ben, clairement, c'est en fait aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu t'adaptes à la chaussure dans laquelle tu es. Et oui, c'est vrai qu'on devrait avoir un pied évasé, que en fait la chaussure elle devrait pas être contraignante et tout. Mais en vrai, si tu veux faire de la vitesse, par exemple, il faut que tu aies un chaussant précis, donc un peu serré. Et si tu veux être stable, eh ben, il faut un chaussant un peu plus large. Bon, ben voilà, il suffit de venir négocier avec ça. Tu vois, moi, j'aime bien aussi courir avec des chaussures, avec des semelles fines, avec des crampons sur la route. Pourquoi? Parce qu'en fait, les crampons, ils vont du coup te rentrer dans le pied indirectement, mais de manière confortable, hein. Mais du coup, ils vont venir faire le sol non plat sous ton pied. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que tous les sols sont plats, que nos semelles chaussures, elles sont plates, et que du coup, on ne se comprend pas pourquoi l'adhérence du pied, pour être au top, faut qu'elle soit le plus au possible au contact. Et bien du coup, nos pieds, ils sont plats. La semelle de peau d'eau, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle te fait un sol non plat. Et en plus, adapté à ta morphologie, à ta typicité, si toutefois tu as fait un vrai bilan et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi, je pense que le vrai problème, en fait, derrière cette problématique de pied qu'on entend partout, comme quoi les pieds ne seraient pas assez musclés, bon, ça, c'est un autre débat, mais ça me met hors de moi aussi, quoi. C'est qu'on a oublié qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même que si tu es adhérent au sol, eh ben, tu es stable au sol et tu peux produire de la force. Donc, il va falloir que cette problématique, dans la manière dont tu viens de chausser, elle soit mise en avant. D'où le fait que bah, sur la route, tu vas avoir des chaussures qui vont être d'un certain type, et sur les chemins, et dans la montagne, et ainsi de suite, tu vas avoir d'autres nécessités, quoi. Et l'adhérence, l'accroche, c'est des paramètres qui sont hyper importants. Mais si tu n'as pas compris le fonctionnement en fait, de la chaussure, tu ne vas pas pouvoir faire une étude sensée sur le fonctionnement de la chaussure. Parce que venir mettre les blessures et le fonctionnement de la chaussure en parallèle, enfin, pour moi, c'est un peu illusoire de venir pouvoir sortir le fait que le drop soit intéressant, que le stack soit intéressant, ça de manière isolée. Il y a trop de composants et la manière dont tu vas l'apprivoiser va être hyper, hyper important. C'est le facteur limitant.
Ouais, pour en revenir au drop dont tu as parlé au début, je ne suis pas expert de la biomécanique comme toi, mais il y a un point qui m'interroge, c'est-à-dire que on veut décharger le tendon d'Achille sur le principe, mais si tu regardes un petit peu comment les gens bougent, moi je m'imagine que si tu décharges une articulation, il y en a une autre qui va être plus sollicitée pour arriver à assurer le travail.
Eh ben, c'est exactement ce curseur qu'on va utiliser en rééducation, en fait, pour pouvoir maintenir en fait le coureur en activité. Eh ben, on va décharger la zone blessée pour venir charger une zone un petit peu différente. Donc, c'est là où on a beaucoup parlé de la cadence, parce que la cadence, en maniant la cadence de pas, en fait, tu vas pouvoir jouer là-dessus, quoi. Mais une autre manière de décharger une zone pour en charger une autre, eh ben, c'est effectivement d'utiliser des chaussures. Et donc, par exemple, pour toutes les pathologies du pied, de la cheville, du mollet, ben, tu vas utiliser des drops un peu plus élevés, par exemple, et un coussinet un peu plus moelleux au niveau de l'épaisseur de ta chaussure. Ça va permettre de soulager les parties basses. Par contre, l'effet à distance, ça va être de charger plus en fait la partie genou, hanche, dos. Et c'est là où c'est hyper important. On n'enlève pas la charge, on la déplace. Et c'est pour ça
Déplace.
qu'aujourd'hui, il faut utiliser ta chaussure comme un outil entre guillemets, à court terme, pour pouvoir permettre au corps d'apporter des ressources suffisantes pour pouvoir revenir à ton système de base. Augmenter les cadences comme on entend partout, en fait, c'est pas donné à tout le monde et ça marche pas à long terme. Donc il faut pouvoir se dire, en fait, peut-être que dans un premier temps, effectivement, une chaussure minimaliste plus une cadence élevée va permettre de décharger un peu plus le genou et la hanche et le dos, mais ça va charger beaucoup plus ton pied, ton tendon d'Achille et ton mollet. Et donc, bah, est-ce que tu y es prêt, quoi? Il y a eu ce grand boom. Alors, j'ai pas dit en me présentant, mais j'ai un conflit d'intérêts. Je travaille pour un organisme de formation et j'enseigne le traitement du coureur à pied. Et ben, en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des organismes qui ont vanté les mérites de l'augmentation de cadence et puis notamment de la cadence à 180. Et aujourd'hui, on crée des blessures, nous, professionnels de santé, parce qu'on n'a pas compris à quoi ça servait. Et la chaussure minimaliste à tout le monde, et ben, quand on ne peut pas faire 10 montées de mollets comme ça, bah, c'est pareil, c'est incohérent, quoi. Donc il faut réfléchir le système, il ne faut pas réfléchir qu'en local. Et malheureusement, on avait des kinés qui étaient des grands pourvoyeurs de physiothérapie locale. Maintenant, on a des pourvoyeurs d'exercice local et ça fait les mêmes dégâts et ça ne fait pas les résultats escomptés sur la prise en charge de la pathologie qui est déjà très complexe, hein. Tout à l'heure, tu parlais de tes 3 blessés. Pour moi, le plus important quand on traite des coureurs à pied, moi je suis le garant de la santé des coureurs. Si un coureur est en santé, tu le stimules, il performe, il s'améliore. Si la santé n'est pas bonne, tu lui fais le même stimulus, il se blesse. Le problème, c'est pas le stimulus, c'est la santé. Donc on oublie que dans une pyramide en fait comment dire, de la construction d'une blessure, en fait le vrai socle, c'est s'appuyer sur la santé, ensuite tu t'appuies sur l'entraînement, ensuite tu t'appuies sur le pattern, on va dire, de course, et au dernier moment, bah, en fait, sur la chaussure que tu vas utiliser. Mais c'est pas en changeant la chaussure que tu vas améliorer les blessures, c'est en changeant l'état de santé des gens. Donc effectivement, une gestion de l'entraînement en rapport avec l'état émotionnel et l'état de professionnel, moi c'est ce sur quoi j'insiste le plus. La chaussure, en fait, c'est beaucoup plus un gadget, c'est quelque chose d'intellectuellement intéressant comme l'analyse de course, plus que vraiment prépondérant dans la correction des blessures.
Ouais, et comme tu dis, ce qui est important, je pense, c'est quand même le système, et tu l'as bien dit, la chaussure, c'est un outil. C'est-à-dire que je pense aussi, mais c'est pas que pour la chaussure, ça sert à rien de s'inventer des problèmes où il n'y en a pas. C'est-à-dire que si quelqu'un a mal quelque part, l'idée, c'est pas d'aller passer en minimaliste ou en maximaliste parce que quelqu'un lui a dit qu'il courait pas comme il fallait et qu'il fallait courir comme ça. Parce que tu vas déplacer la charge ailleurs et peut-être que c'est là que les problèmes vont arriver. C'est pour ça que j'ai un rapport très neutre à la chaussure, très minimaliste à la chaussure, comme je disais, mais dans le sens où c'est plutôt neutre, quand tout va bien. J'aime pas inventer des problèmes aux gens. Donc, et j'aime pas que les gens s'en inventent pour pas grand-chose, en fait.
C'est ça, et en fait, tu vas créer en fait un vrai stress, une vraie peur de l'utilisation du produit, alors qu'au final, un vrai athlète, il est capable de mettre n'importe quelle chaussure. En fait, tu lui mets n'importe quelle pompe au pied, et il va être capable de courir. Alors, peut-être pas aux vitesses espérées, mais il n'aura pas de souci à mettre n'importe quelle chaussure. Et quelque part, pour moi, la santé d'un coureur à pied, c'est ça, c'est qu'il soit capable de courir un peu en minimaliste, un peu en maximaliste. Par contre, quand il va faire une compétition ou quand il va faire une séance à thème, eh ben, il choisit la chaussure la plus appropriée, quoi. Mais il doit se confronter dans tout le continuum de balayer toutes les capacités de pied et d'organisation autour de ça, quoi. Moi, je reste persuadé qu'en fait, c'est un bon moyen de voir l'état de santé de nos coureurs et pas de venir se dire, bon, bah, ok, moi, je suis fait que pour courir en Hoka ou que pour courir en Salomon, en New Balance ou je ne sais quoi, ou en Five Finger.
Ok. Et puis, comment tu pourrais résumer un petit peu tout ça les gens, la question qui revient souvent, c'est comment choisir mes chaussures? Et par rapport à tout ce que tu nous as dit.
Alors déjà, pour choisir tes chaussures, en fait, la première chose, c'est que quand tu vas choisir la chaussure, tu vas déjà regarder la pointure. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever ta semelle de propreté à l'intérieur, tu vas la sortir de la chaussure et tu vas la mettre au sol. Tu vas mettre ton pied dessus et tu vas regarder partout où ton pied y dépasse de la semelle de propreté. Parce que partout où ça dépasse, forcément, ça va frotter dans ta chaussure. Et c'est le facteur limitant, c'est les flictènes, c'est les ampoules. Donc une chaussure trop étroite, en fait, à un moment ou à un autre, elle te posera des soucis. Donc il faut trouver une chaussure qui soit en fait déjà pas trop étroite et pas trop large non plus, parce que si elle est trop large, en fait, tu nages dedans.
Baladé.
Ces chaussures avec des toboggans super larges, ouais, bah, si tu navigues dedans, tu vas faire des frottements exactement pareil, quoi. Donc les ongles, ils vont changer de couleur et ainsi de suite. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta bonne pointure, tu mets le pied dedans, tu ne fais pas le lacet, et là, tu regardes si elle te maintient bien. Et si en marchant, tu arrives à avoir une chaussure qui se maintient bien, nickel. Ensuite, tu vas regarder le confort général de ta chaussure. Et là, si ton confort, il te paraît correct, si tu te sens pas trop serré, pas trop, naviguer dedans, ben en fait, et en plus que la couleur elle te plaît, que le design il te plaît, parce que ça c'est le modèle numéro un en fait. Aujourd'hui, les gens ils choisissent par rapport à la couleur et au design, hein. Ça c'est plus important et ils rajoutent un peu de confort de temps en temps. C'est les paramètres les plus importants. Ensuite, tu vas regarder, tu vas lasser, et puis tu peux faire quelques pas et quelques foulées avec, mais en soi, je suis pas sûr que tu sois vraiment sûr de ton choix quand tu vas faire quatre foulées dans le magasin ou dehors, et puis que le gars il va te dire ouais, elles sont spéciales pour toi et c'est nickel, et ainsi de suite. En vrai, il faudrait pouvoir les mettre en place pendant, tu vois, 5-10 km. J'aime beaucoup Decathlon. Maintenant, ils te reprennent tes chaussures si en fait elles ne conviennent pas, même si tu as couru un peu avec. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est un bon moyen. Ensuite, il va falloir qu'elles soient adaptées à ta pratique. Et puis surtout qu'elle ne soit pas démesurée en termes de poids. Et j'ai envie de te dire, dans un premier temps, si tu es novice, prends pas des chaussures qui soient hyper techniques, parce que en fait, de toute façon, tu n'as pas les ressources, on va dire, neuromusculaires pour pouvoir les utiliser. Donc fais avec un truc assez basique, et ce qui est dur à trouver, hein, parce qu'aujourd'hui, des chaussures basiques, c'est de plus en plus compliqué, hein, à trouver. Déjà, quand tu as déjà ça, une bonne pointure, un bon confort et un bon maintien, bah ça c'est le top. Ensuite, le côté stable, c'est-à-dire en fait quand tu te mets le pied dans la chaussure, tu dois être autant stable que quand tu es pieds nus sur le sol. Si tu es de plus en plus instable parce que les mousses sont très molles, attention, attention, parce que en fait, ça va être, cette stabilité statique, elle va être de l'instabilité statique, elle va être de l'instabilité dynamique, et tu vas courir après ton équilibre à chaque fois, et forcément, ben, à toi les tendinopathies prochaines. Donc ça, c'est vraiment la base pour choisir ses chaussures. Après, il y a plein d'autres paramètres, et si tu veux être aiguillé, eh ben, suis la page For Foot, ou alors en fait, essaye de te faire conseiller par des gens qui sont utilisateurs des chaussures, qui en connaissent beaucoup. Pratiquant, je sais pas, parce qu'en fait, ça veut tout dire et rien dire. Je ne suis pas très adepte de. Il faut aller voir, quand tu as des blessures de course à pied, il faut aller voir un pratiquant en course à pied. Parce que bah, moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique et je ne pense pas être cinglé, quoi. Donc, je crois qu'il faut surtout que tu sois intéressé à la pratique. Et pratiquant, ça ne veut pas dire intéressé à la pratique. Donc, voilà. Mais dans le bon choix, en fait, c'est le confort, l'adaptation à la pratique et un bon maintien de pied avec une bonne pointure. Ça, c'est vraiment le top.
Ok, c'est notre premier point de désaccord sur le podcast. Tous les gens, je les envoie vers des, je les conseille d'avoir des médecins et des kinés qui courent, mais on va pas faire un débat là-dessus. On peut pas être d'accord sur tout.
Ben,
Mais par contre,
et
juste.
comment tu ferais si tu avais besoin si tu avais la pratique à toi, c'était de la périnéologie et que tu n'as pas de fuite urinaire?
Et, ah, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais la course à pied est un loisir. Mais
C'est
oui,
ça.
enfin, bref, on ne veut pas lancer le débat. Je n'ai pas dit que j'avais raison. Par contre, tu ne m'as pas parlé d'un truc que souvent les vendeurs de chaussures parlent. Moi, d'ailleurs, je vais quand même chez des spécialistes avec un tapis, parce que j'aime bien courir. Mais pronation, supination, tu le prends en compte? Et moi, je ne la pose pas pour rien, la question.
Non, en fait, ça c'est pareil, c'est un outil marketing. En fait, on a vendu des contrôles anti-pronation, en fait, dans la chaussure. C'est une des technologies, hein, le contrôle anti-pronation. Et en fait, on a inventé des termes qui vont avec l'hyperpronation, par exemple. Est-ce que, par exemple, si je te parle de ton genou et que je te parle d'une hyperflexion, tu trouves ça logique, ou une hyperextension, tu vas trouver ça logique, et est-ce que pour toi ça existe? Ben en fait, la pronation, c'est une position du pied, et c'est aussi un mouvement. Et en fait, on a fait un gloubi-boulga avec tout ça, et on a créé la chaussure anti-pronation, la chaussure neutre et la chaussure anti-supination pour venir, entre guillemets, bloquer ton pied. Moi, je ne regarde pas la pronation, la supination, des choses comme ça. La seule chose qui me demande d'aller chercher ces chaussures à contrôle pronateur, en fait, c'est quand on a des index collagéniques, c'est-à-dire des gens qui sont hyperlaxes. Sur les gens hyperlaxes, en fait, je vais vraiment faire attention à ce qu'ils aient un bon maintien de pied et que leurs chaussures, elles soient plutôt cette technologie anti-pronation, parce qu'en fait, ce que je veux pas, c'est que le pied bascule vers l'intérieur et que, en fait, ils sortent de la chaussure. Et il y a notamment, il y a eu des très belles photos qui ont été faites au tout début avec Vaporfly, où il y a des coureurs qui tenaient pas dans la chaussure parce que tout simplement, elle est tellement fine que malheureusement, en fait, ça manque de maintien pour certains qui ont des pieds qui sont très mobiles, en fait, hein, des pieds plats très mobiles. C'est lié à l'index collagénique, encore à ton fascia, hein, la qualité de ton fascia. Et donc, pour c'est très rare que je regarde la notion de pronation-supination. La seule chose qui va m'intéresser, c'est comment tu contrôles ce mouvement. Et logiquement, si tu le contrôles bien, tu peux mettre n'importe quelle chaussure à partir du moment où elle te maintient bien.
En fait, en résumé, c'est un outil.
Ah ben, c'est totalement un outil et c'est un super outil qui coûte malheureusement de plus en plus cher.
Ouais. Bon résumé. Bon, après, c'est moins cher que d'aller au bistrot. Mais ouais. On
Ouais,
peut faire
puis
les deux. Hein. Mais ça, c'est moi
ouais,
qui
c'est ça.
suppose.
Tu peux y aller en courant. Mais...
Exactement. Ouais. J'ai l'impression que c'est du vécu, non? Et par contre, tu n'as pas parlé du retour en courant. Mais.
Ben en fait, normalement, tu travailles les changements de direction au retour.
Au retour, ouais, système proprioceptif, tu masques des sens et tout, ouais, c'est quand même pas mal. Bref, un peu. Merci beaucoup, Fabien, c'était vraiment cool.
Ben écoute, au plaisir. Et puis, en tout cas, continue. C'est hyper intéressant d'avoir des gens qui viennent nous renseigner comme ça, tranquille au coin du feu ou dans la voiture tous les jours. Ça fait vraiment du bien d'avoir des infos et quand on n'a pas le temps d'aller chercher, c'est vraiment le top.
Ouais, bah, merci à toi, et tu fais partie. Je sélectionne quand même rigoureusement les gens que je reçois. Donc, et c'est Fred qui m'a dit, mais tu devrais discuter avec Fabien, Fred Cross. Donc,
Ouais.
merci à lui, en tout cas.
Bah,
S'il est
merci
arrivé au bout de
Fred, ouais.
l'épisode, on lui passe un petit bonjour. Allez, au revoir à tout le monde.
Ciao.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.